Rebonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs. Vous êtes bien sûr Transistor. Il est 20h pour de bon cette fois-ci, ou plutôt 20h03 passé de 30 secondes. Vous écoutez le journal radiophonique amplifié. Et c'est parti pour une heure d'actu que mes camarades et moi-même vous retransmettons, mixé, égalisé, monté et bien sûr amplifié. Et sans plus tarder, sans annoncer le programme, parce qu'une seconde de gagné est toujours une seconde de gagné, nous passons au journal. Rebonsoir Maë et bonsoir François-René.
Bonsoir Rémi.
Bonsoir Rémi.
Au national d'abord, la situation se crispe entre Édouard Philippe et les cheminots et la menace d'une grève générale flotte dans l'air. Le Premier ministre a en effet entrepris de réformer la SNCF pour cause d'une dégradation des services, retards, pannes et du coût élevé pour les finances publiques.
En plus de sa volonté d'ouvrir le réseau ferroviaire à la concurrence, il s'attaque notamment au statut des cheminots.
Ce statut qui assure certains avantages aux employés, notamment en termes de retraite ou pour l'impossibilité de se faire licencier pour motif économique, est pointé du doigt comme étant en partie responsable des maux du système ferroviaire. Pourtant, rien n'est moins sûr. Le manque d'investissement sur les petites lignes, les retards ou autres sont en effet difficilement inculpables aux cheminots. Toujours est-il qu'Édouard Philippe est décidé à prendre la situation en main, malgré l'opposition de l'ensemble des syndicats concernés, et la décision du gouvernement de procéder par ordonnance a contribué à crisper encore plus la situation. Mardi, 8 activistes de Greenpeace s'étant introduits dans la centrale nucléaire de Cattenom en octobre ont été jugés. Ils ont été condamnés à des peines allant de 5 mois de prison avec sursis à 2 mois de prison ferme.
L'association se dit particulièrement déçue, notamment parce qu'il s'agit de la première que ces activistes sont condamnés, première fois qu'ils sont condamnés à de la prison ferme. Un jugement qui paraît sévère pour beaucoup quand des faits. Pardon.
Dans les faits,
les militants ont franchi quelques grillages et se positionnent comme des lanceurs d'alerte.
Le gouvernement, d'ailleurs, s'était appuyé fin 2017 sur cette alerte lancée par les militants pour revoir la sécurité des centrales nucléaires françaises. Ce procès relance la question du nucléaire, mais également celle de la lutte militante. Comment la justice se positionne-t-elle face à des personnes qui se battent pour des idées de manière pacifique? Jusqu'à quel point doit-on réprimer ce type d'initiative? Un sujet que la situation à Bure semble également questionner. En effet, jeudi dernier, la ZAD de Bure a été évacuée avec plus de 500 policiers mobilisés pour l'opération. Pour rappel, depuis un peu plus de 2 ans, des militants occupent une forêt sur place pour lutter contre le projet du gouvernement d'en faire un site d'enfouissement nucléaire, un sarcophage destiné à tenir des milliers d'années ou accumuler des déchets radioactifs.
Le chantier, qui serait le plus grand d'Europe, a suscité dès lors de nombreuses réactions.
Après l'expulsion jeudi dernier des personnes occupant la ZAD, de nombreux militants se sont interrogés sur la légalité de celle-ci. En effet, je parle de l'expulsion. En effet, les forces policières se seraient appuyées sur une ordonnance de Gérard Collomb prononcée il y a plus d'un an et dont la validité peut être remise en cause. De même, les forces de l'ordre se seraient appuyées sur un flou juridique pour procéder à l'expulsion de la zone. Et les huissiers n'ayant pu identifier les personnes sur place, le tribunal a simplement décidé qu'on pouvait procéder à leur expulsion sans les entendre.
Toujours est-il que la ZAD a été évacuée, mais les antinucléaires affirment qu'ils continueront à lutter.
Nicolas Hulot, lui, s'est fait discret dans cette affaire. Lui qui avait pourtant fait savoir, avant son entrée dans le gouvernement, qu'il soutenait l'action des militants à Bure.
Guerre civile en Syrie. Les combats au sol opposent des unités d'élite à l'armée syrienne et des miliciens pro-Assad à plusieurs groupes armés rebelles, souvent d'inspiration islamiste.
Cette région, située à l'ouest de la Syrie, pas très loin de la frontière libanaise et pas très loin de Damas, est le dernier bastion d'envergure des rebelles près de la capitale Damas.
Bachar el-Assad veut y lancer une offensive terrestre pour mettre un terme aux tirs de roquettes qui visent fréquemment la capitale. Assiégée depuis 2013, la Ghouta orientale et ses quelques 400 000 habitants sont pris en étau tandis que leur situation humanitaire dans cette poche exiguë est devenue incontrôlable. Malgré le cessez-le-feu partiel quotidien, les combats au sol se sont intensifiés sur plusieurs flancs autour de la Ghouta depuis le 25 février. Les affrontements ont été précédés par plus d'une semaine de raids aériens des forces pro-régime contre le fief rebelle, raids qui ont fait plus de 550 morts selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme.
La bataille de la Ghouta orientale s'annonce acharnée.
Oui, si les pertes humaines sont moindres dans la capitale, les habitants y vivent aussi au rythme de la guerre. Les mortiers lancés par les combattants rebelles ont fait une vingtaine de morts depuis le 18 février. Bien que le pouvoir syrien ait endossé, à l'été 2017, l'accord de désescalade locale parrainé par les Russes, son ambition pardon, n'a jamais varié, reconquérir l'ensemble du territoire national et la route orientale est le talon d'Achille de Damas. Piégés sur place, les civils souffrent, en plus des bombardements, de graves pénuries alimentaires et d'une forte hausse des prix selon l'ONU. La malnutrition est à présent à un niveau record et du fait des bombardements, le nombre de personnes nécessitant une évacuation ne cesse d'augmenter. Londres rejette la proposition de Bruxelles sur l'accord de divorce du Brexit. Il aura fallu à peine plus d'une demi-heure mercredi 28 février au gouvernement britannique pour rejeter avec véhémence la proposition d'accord de divorce préparée par la Commission européenne sur le Brexit. Aucun Premier ministre britannique ne pourrait jamais l'accepter, a lancé Theresa May devant la Chambre des communes lors de la séance hebdomadaire des questions à la Première ministre.
Le point de blocage demeure la question de la frontière entre la République d'Irlande indépendante à majorité catholique et l'Irlande du Nord à majorité protestante qui appartient au Royaume-Uni.
Entre ces deux espaces se dresse une frontière dite ouverte, c'est-à-dire sans douaniers. Mais avec le Brexit qui conduit à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, il devient juridiquement impossible de maintenir cette frontière ouverte puisque la République d'Irlande, aussi appelée AIR, reste bien dans l'Union européenne, contrairement à son voisin l'Irlande du Nord qui fait partie du Royaume-Uni. Pour éviter le rétablissement d'une frontière physique entre les deux d'Irlande, Bruxelles propose une AIR réglementaire commune. Mais le Royaume-Uni s'y oppose formellement car il considère que l'instauration d'une telle AIR conduirait dans les faits à ce que l'Union européenne annexe officieusement l'Irlande du Nord. Européens et Britanniques sont pourtant d'accord sur le principe, il faut maintenir une frontière ouverte conformément à l'accord du Vendredi Saint qui avait mis fin en 1998 à 30 ans de conflit en Irlande du Nord. Si le principe d'une aire réglementaire est maintenu, l'enjeu est en fait de savoir qui, de l'Union européenne ou du Royaume-Uni, édictera les règles de douane entre les deux Irlandes. Bruxelles avait bien indiqué que Londres pouvait proposer une solution spécifique au problème irlandais, mais en l'absence d'une telle alternative, le texte publié hier propose que l'Irlande du Nord reste dans l'union douanière. La Cour de justice de l'Union européenne resterait compétente sur l'Irlande du Nord. Cela signifierait que le Royaume-Uni n'aurait pas la souveraineté sur sa frontière irlandaise. Cela signifierait aussi, à long terme, la possibilité d'un rapprochement des deux Irlandes et peut-être d'une réunification, ce que craignent les unionistes protestants d'Irlande du Nord.
Toutefois, à en croire le Daily Telegraph, le but de l'Union européenne est plus prosaïque que l'annexion de l'Irlande du Nord.
Oui, fatigué des tergiversations du gouvernement britannique, Bruxelles souhaite, je cite, « forcer la main de la Première ministre en l'obligeant à exposer au plus vite sa vision de la future relation avec l'UE ». Ce n'est pas un hasard d'ailleurs si Theresa May doit justement donner vendredi un discours crucial à ce sujet.
Et on passe au sujet long.
Et le mouvement Nuit Debout se poursuit.
C'est fasciste et réactionnaire.
C'est même étendu ces derniers jours en région.
Tous les sujets seront abordés, il sera mon invité en direct.
C'est l'hiver, ça n'aura pas échappé à nombre d'entre vous. Il fait un peu frisquet ces derniers jours, les citadins ont sorti les bonnets, les pulls, les gants et tout le monde commente la météo. C'est le fameux Paris-Moscou qui fait descendre le mercure dans le négatif et qui gèle vos orteils. Alors le gouvernement, alerté par Météo France, s'est dit
« Tiens, est-ce qu'on devrait pas essayer de mettre
à l'abri nos SDF ?»
Le plan Grand Froid a donc été lancé depuis ce week-end. Il consiste à prendre des mesures pour informer et protéger la population du froid.
Avez-vous pensé à mettre une écharpe ? Ne surchauffez pas votre appartement pour éviter des changements trop brutaux de température. 20 degrés, c'est suffisant.
Sauf que, en déplaise à ces bienveillants lanceurs d'alerte, il existe des logements difficiles, voire impossibles à chauffer, et où, quand il fait 12 degrés, on a de la chance. C'est ce qu'on appelle la précarité énergétique.
Aujourd'hui en France, 5,6 millions de ménages souffriraient ainsi du froid dans leur logement, soit 12,1 millions de personnes, un Français sur 5.
Sans surprise, ce sont les jeunes, les retraités pauvres, les familles monoparentales les premiers concernés. La faute à des logements mal isolés, véritable aberration écologique quand on sait qu'on serait capable aujourd'hui de construire des bâtiments complètement autonomes énergiquement parlant, au moins dans les régions les plus tempérées. Mais bon, ça, on n'en parle pas trop, on conseille seulement à la population de ne pas surchauffer chez eux. Et pour ceux qui n'ont pas de chez eux, eh bien, on mobilise des moyens. Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires, a annoncé que 150 000 places d'hébergement d'urgence étaient disponibles, un chiffre jusque-là jamais atteint en France, dont 5 344 places débloquées spécialement pour le plan Grand Froid. Les associations multiplient également les maraudes et le SAMU social a renforcé ses effectifs. Malheureusement, en France, depuis dimanche, 4 morts sont tout de même à déplorer à cause du froid.
À Lyon, c'est 200 places d'hébergement supplémentaires qui ont été ouvertes, 120 places dans le gymnase Bellecombe du 6e arrondissement, 50 places à mes yeux et environ une vingtaine de places à la maison sociale de Villeurbanne, mais seulement pour les 10 prochains jours.
Alors, est-ce qu'on peut se féliciter de cette mobilisation contre le froid ? Peut-on féliciter la préfecture d'avoir réussi à loger 200 personnes supplémentaires pour 10 nuits trop froides ? Parce que s'il avait fallu ouvrir 200 places pour le plan grand froid, ça veut dire que pendant le reste de l'hiver, vous savez, quand il fait un chouïa plus de 0 degré, ces 200 personnes, elles dormaient dehors ? Peut-on féliciter la préfecture pour 200 places d'hébergement pendant 10 jours quand le collectif Agir Migrants à Lyon parvient à loger 300 personnes dans des squats qui, soyez-en sûrs, ne sont pas chauffés à 20 degrés ? Quand par ailleurs, elle a fait expulser certains de ces squats ? Peut-on se réjouir qu'une trentaine d'élus de tous bords à Paris aient passé une nuit dans la rue avec leurs grosses doudounes et duvets pour alerter sur la condition des sans-abri ? Oui, les élus alertent, mais alors qui va agir ? Est-ce qu'une fois que ces élus seront de retour dans leurs appartements parisiens douillés, les 140 000 personnes qui dorment dehors tous les soirs auront trouvé un logement ? Si vous posez la question, on vous répondra que c'est compliqué, que la situation exige des moyens, que les gymnases, les gares et les amphis des universités n'ont pas vocation à loger des gens. Ils auront raison. Mais ça ne vous gêne pas, vous, de voir cet homme dormir dehors à côté de l'entrée de l'ENS quand derrière les vitres coulissantes, le hall Félix Pécaud est chauffé à 20 degrés Celsius, éclairé et surveillé toute la nuit. Et si, au lieu de se trouver des excuses, on commençait par ouvrir les portes ?
Décortiquage. Si c'est pas assez bien cassé, ben je finis avec mon couteau.
Comment décortiquer un crabe ?
Et nous allons présenter des méthodes simples justement pour le décortiquer.
Alors avant le décortiquage, merci beaucoup à tous les deux, François, René et Maë, pour ce journal et puis pour ce petit coup de gueule assez nécessaire. On n'en poussera jamais assez et on espère que ça finisse par faire bouger quelque chose. Même si les choses sont, hélas, mal parties. Mais bref, retrouvons le sourire et François-René, ça va de pair, pour ce décortiquage donc que nous annonce la régie. De quoi nous parles-tu, François-René, ce soir ?
Eh bien, ce soir, je vais vous parler du mot « patriarcat ». Alors, ce mot très riche, je vois Marie qui est très heureuse et très contente.
Adore le patriarcat.
Elle adore le patriarcat.
Salaud, ta gueule.
Alors, d'où vient le patriarcat ? Eh bien, son origine est religieuse. Dans l'Ancien Testament, il désigne l'étendue d'un territoire soumise à la juridiction d'un patriarche, terme qui désigne ici le chef de famille. Deuxième sens que prend le terme, dans l'anthropologie naissante. Le premier à utiliser le terme dans une optique scientifique est l'Américain Henry Lewis Morgan, qui est né en 1818 et mort en 1881, et qui est souvent considéré comme le père de l'anthropologie. Il étudie le système de parenté iroquois à partir de données recueillies chez les Indiens du Kansas, du Nebraska, du Missouri et de la baie d'Hudson. Puis il tente une étude des systèmes de parenté à l'échelle de la planète à l'aide d'un questionnaire envoyé dans les différentes ambassades, colonies et missions évangéliques. Le résultat de ses recherches paraît en 1871, dans son grand livre « Système de consanguinité et affinité de la famille humaine ». Il y affirme que la famille occidentale, nucléaire, monogame, patrilinéaire, est le fruit d'une histoire pluriséculaire. Surtout, Morgan relie l'émergence historique du système patriarcal à l'émergence de la propriété privée. Friedrich Engels, qui popularise cette idée dans l'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État. Elle devient une composante de l'analyse marxiste orthodoxe de l'évolution des sociétés. Engels oppose à la propriété et au patriarcat contemporain le modèle d'un communisme primitif. Dans ce communisme primitif, les rapports sociaux sont égalitaires. La division du travail y est naturelle, c'est-à-dire fondée sur les capacités physiques et intellectuelles, les goûts aussi, de chaque individu. Grossièrement, elle se traduit par une division sexuelle des tâches, où l'homme chasse le gros gibier et assume les tâches les plus dangereuses, et la femme assure la cueillette et l'éducation des jeunes enfants. Mais tout ça n'entraîne pas une domination des vieux sur les jeunes ou des hommes sur les femmes. Avec un tel raisonnement, on peut soutenir que le communisme a été le mode d'organisation sociale et économique dominant tout le long de la préhistoire jusqu'au néolithique, c'est-à-dire plus de 90% de l'histoire d'Homo sapiens. Ce serait avec la naissance de l'agriculture que serait née la propriété de la terre, les guerres pour l'appropriation des terres justement, et la domination des hommes sur les femmes à partir du moment où ils s'approprient la puissance guerrière. Alors les spécialistes de la préhistoire ont souligné combien cette interprétation avait tendance à idéaliser les relations sociales des temps anciens en en faisant une version aménagée du mythe de l'âge d'or. Mais l'essentiel est de voir que la théorie de Morgan, reformulée par Engels, à partir, il est vrai, de notes manuscrites de Marx, tout cela ouvre la voie aux théories féministes dites radicales, qui montrent que la domination des hommes sur les femmes n'est pas éternelle. Les féminismes de la deuxième vague, des années 60-70, soulignent ainsi que le patriarcat est inscrit dans l'histoire, qu'il n'est pas éternel et que des rapports plus égalitaires entre les sexes sont possibles, puisque de tels rapports ont existé plus égalitaires dans le passé. Le patriarcat est le fruit de structures socio-économiques qu'il s'agit alors de subvertir. « We can do it », comme le dit la célèbre affiche féministe.
Merci beaucoup François-René pour cette petite mise au point, et puis c'est toujours extrêmement agréable de convoquer le camarade Engels. Ah.
C'est vrai ça.
Sans plus tarder, on passe à la revue de presse avec Marie, 20h19 tout pile, c'est parti.
Voici la revue de presse. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour à tous.
L'hyper-revue de presse.
La revue de presse dans les journaux.
La revue de presse.
La revue de presse qui fait parler et qui vous fait réagir, c'est avec Natacha Polony.
Revue de presse française. Et on commence hein, cette revue de presse avec...
Alors ta première parole tout à l'heure a été une insulte, mais je te dis quand même bonsoir Marie.
Bonsoir Rémi.
Et en plein salon de l'agriculture, la rédaction du Figaro a voulu faire une couverture de circonstances. Là, on commence fort direct.
Oui Rémi, avec en gros titre, le fossé se creuse entre l'exécutif et la France rurale. Dans les colonnes du journal, on commente la visite éclair, c'est le cas de le dire, de Macron au Salon de l'Agriculture. On commente aussi l'inquiétude de son entourage vis-à-vis de cette image de président des villes, à mettre en lien avec le président des riches, qui lui colle décidément bien à la peau. Alors du coup, on a notre éditorialiste préféré, Guillaume Tabar, qui nous sort les grosses statistiques des présidentielles de 2017. Président des riches, avant d'être un surnom, c'est un constat électoral. C'est comme ça qu'il le résume, et c'est plutôt vrai. Alors bien sûr, comme le dit Guillaume Tabar, Macron ne risque pas de perdre un électorat qui ne l'a jamais soutenu, certes. Mais cela donne une image contradictoire par rapport à la promesse d'une présidence sans clivage, au-dessus des divisions, et ce pourrait être dangereux pour lui à terme. Bon, évidemment, comme c'est un papier paru dans le Figaro, il a la même conclusion que tous les papiers précédents depuis le sombre jour de la défaite de François Fillon au premier tour de l'élection présidentielle de 2017. Je cite « Cette faiblesse présidentielle offre une fenêtre de tir précieuse à la droite. Mais oui, Jamy, suivant la loi de l'équilibre cosmique de la politique française, tout ce que fait mal Macron, c'est très bon pour la droite !» Alors amusez-vous à regarder, vous verrez bien que tous leurs éditos, tous leurs papiers finissent comme ça. Du coup, m'est avis qu'on n'a pas fini d'entendre bachoter Wauquiez et consorts sur la ruralité, l'enracinement, le territoire, la terre qui ne ment pas, etc. etc.
Et alors, hop là, on passe au gouvernement maintenant, qui est aussi allé jeter un œil du côté du cul des vaches.
Oui, alors avec une analyse proposée par la journaliste Françoise Fressot dans les colonnes du Monde, sous le titre « La fiction de l'apolitisme ou le triomphe de l'oligarchie macronienne ». Bon, alors il me semble que c'est toujours donné un peu trop de crédit à la geste macronienne, hein, ça commence comme ça, Emmanuel Macron a-t-il tué la politique, et blablabla, ouverture d'une nouvelle ère qui ne ressemble à aucune autre, et blablabla, et blablabla. Mais c'est assez pertinent. Oui, c'est vrai que la marque de fabrique des macronistes, c'est de se présenter comme apolitique, sans parti, comme des gens qui veulent être utiles au pays et faire des réformes de bon sens. Enfin, plus exactement, qui s'arrange de contrer les syndicats en invoquant l'intérêt supérieur de l'usager, que ces usagers soient les parents d'élèves pour la réforme du bac, les voyageurs pour la réforme du statut de la SNCF, et la journaliste de conclure en quelques mois l'exécutif, puissamment épaulé par la haute fonction publique, s'est arrogé la lourde responsabilité d'être l'unique représentant et l'unique exécutant de l'intérêt général. C'est lui qui décide de ce qui est bon pour le pays. Fin citation. Et bien sûr, un exécutif qui a tout intérêt à ce que l'opposition reste aussi déstructurée que possible, et ce, aussi longtemps que possible.
La presse s'intéresse aussi à l'opposition aujourd'hui, d'ailleurs, et plus particulièrement aux plates-bandes de l'extrême droite.
Et oui, car comme le résume l'observatoire L'œil sur le front, observatoire de Libération,
que nous avions en invité ici même l'an dernier.
N'est-ce pas ? Enfin, pas ici directement, mais c'est tout comme. Donc, ça commence à faire beaucoup de monde sur le même créneau entre une Le Pen en plein doute existentiel, un Dupont-Aignan qui aimerait bien exister pour lui-même, un Philippot qui vole enfin de ses propres ailes, et un Wauquiez, un Wauquiez quoi. Alors ça se dispute, je cite, le beefsteak électoral en vue des élections européennes de 2019, c'est comme ça qu'on dit chez Libé, du beau monde donc qui, je cite encore, a besoin de s'élargir pour exister, de se coaliser, de se désenclaver. Les journalistes pointent avec ironie les doubles discours. Le FN est, je cite, en pleine refondation, c'est-à-dire que ses adhésions sont en très grave chute. Le FN tente une coalition, c'est-à-dire qu'il essaye de récupérer le mythique capital sympathie de Dupont-Aignan. Le nombre de gens qui draguent cet homme restera toujours pour moi une source de fascination et d'étonnement, mais c'est tout à fait une parenthèse de ma part. Si on reste dans l'actualité du FN, la presse a un peu commenté la sortie du premier tome des Mémoires de Jean-Marie Le Pen, mais je n'ai pas trouvé d'analyse vraiment intéressante sur le sujet dont je pourrais vous faire part, c'est un peu dommage, peut-être qu'il faudrait que je cherche encore un peu plus.
Et au fait, parmi les hebdomadaires sortis aujourd'hui, il y a une couverture que tu ne peux pas ne pas commenter, Marie.
Oui, alors c'est vraiment une parenthèse, mais j'admets que j'ai un peu buggé sur la couverture de l'Obs aujourd'hui. Le dossier principal est consacré à l'intelligence artificielle, jusque-là pas de problème. Et donc, les graphistes nous ont mis un fond bleu ciel, avec un Cédric Villani toute lavalière sortie, fixe comme un cyborg et qui renferme dans sa main le lumineux secret de la vie. Je ne commenterai pas cette mise en scène. Voilà.
Le matheux informaticien que je suis souffre au plus profond de son être.
Je compatis.
Bien, une recommandation peut-être pour refermer ta revue de presse, là je suis tout retourné.
Voilà, alors,
sachant que M, le magazine du Monde, consacre aussi une magnifique couverture au même Cédric Villani en gros plan.
Voilà, mais c'est fou. Alors si vous suivez un petit peu l'actualité de la France insoumise, vous avez peut-être entendu parler de la méthode Alinsky, explorée lors de plusieurs ateliers et amphithéâtres par les militants et militantes. Alors en résumé, il s'agit d'envoyer des community organizers, à ne pas confondre avec les community managers, donc d'envoyer ces organisateurs communautaires, comme on dit en bon français, qui sont salariés, sur le terrain, auprès d'habitants, pour recueillir leurs doléances. Et à partir de ces doléances, le but, c'est d'obtenir des victoires concrètes et locales, c'est-à-dire par exemple qu'on ne vise pas à éradiquer le racisme dans la société, mais à obtenir le maintien de services publics dans des quartiers noirs, par exemple. Parce que, comme vous vous en doutez, cette méthode est née aux États-Unis, à Chicago en 1939, et l'idée c'est d'impliquer la population locale. Il ne s'agit pas d'avoir un programme très précis, un programme politique précis, mais de faire participer les gens. Et le fondateur de la méthode, Alinsky, écrivait « Le véritable programme démocratique, c'est la démocratie ». Si le sujet vous intéresse, un doctorant en civilisation américaine vous résume les principes de cette méthode Alinsky dans un article du Monde diplomatique de mars intitulé « Politiser les colères du quotidien ». Et ce qui m'a plu dans l'article, c'est la distance critique, car ne soyons pas naïfs et naïves. Historiquement, les organisations communautaires ont fleuri en Amérique sous le mandat de Reagan. C'est vrai que quand on déboulonne soigneusement les services publics, c'est encore plus facile si on peut renvoyer les habitants vers des organisations locales qui vont bien les prendre en charge. Et puis surtout, le postulat très critiquable de cette méthode, c'est qu'on a quand même une petite minorité qui encadre l'action du peuple avec un grand P, peuple mineur qu'il faut absolument éduquer à la politique. Donc attention de ne pas aller trop vite en besogne. Et ce sera tout pour la revue de presse de ce jeudi 1er mars.
Merci beaucoup Marie, on a pris un petit peu de retard, mais si c'est parler du Monde Diplo, on te pardonne complètement. Bonsoir Robin.
Bonsoir Rémi, alors crois-moi ou pas, mais j'arrive avec un chiffre aujourd'hui.
Non.
Non.
Et du mascara sur les yeux.
Oui, alors c'est 5 000 millions de dollars, c'est le montant d'investissement dans les entreprises de FinTech en 2017 en France. Bon, c'était surtout un chiffre pour faire beau parce que j'avais juste envie de vous parler de ces entreprises dites de FinTech aujourd'hui. Donc ces entreprises, aussi appelées industries de technologie financière, sont souvent des startups.
C'est moins sexy.
Oui, c'est moins sexy. Mais startup, c'est sexy. Startup qui propose des services financiers innovants grâce au numérique. Ça concerne notamment des services de paiement comme Lydia, que vous connaissez peut-être, des cagnottes comme Litchi,
Adeline,
que Marie doit connaître. Adeline, effectivement. Et puis des services de financement participatif, dit de crowdfunding en bon anglais. Il se développe aussi de plus en plus des services de banque en ligne. Et depuis plusieurs années, ces entreprises sont l'objet de débats et elles gagnent de plus en plus d'importance. Un des questionnements fondamentaux est la concurrence potentielle qu'elles font aux banques. En effet, ces entreprises ont d'abord vu le jour avec la volonté de proposer des services alternatifs aux banques. Par exemple, Lydia remplace votre carte de crédit et le crowdfunding s'attaque, lui, au cœur des services de la banque en proposant des options d'investissement pour ceux qui épargnent et des moyens de se financer pour les entreprises.
Ce qui permet notamment de se passer de banque et d'éviter les marges.
Effectivement, mais il faut garder en tête qu'au début, les entreprises de fintech étaient spécialisées dans des secteurs très restreints. Elles ne proposaient qu'un seul service, micro-paiements comme Lydia, cagnottes, investissements, etc. Et pourtant, le cœur de métier des entreprises de l'investissement, les banques, est justement de centraliser plusieurs services et de les articuler de façon efficace. Je l'ai peut-être déjà dit dans cet édito un jour, mais le fonctionnement des banques repose sur un mécanisme central de compensation des différents services qu'on appelle l'intermédiation. Vous avez d'un côté monsieur ou madame tout le monde qui veut stocker de l'argent, une épargne quelque part, et ce qu'ils veulent avant tout, c'est que leur argent soit en sécurité et qu'ils puissent l'utiliser quand ils veulent.
De ce côté-là, je te suis.
Super, Rémi, merci. D'un autre côté, on a des entreprises qui, elles, veulent qu'on leur prête de l'argent pour faire des investissements. Elle pourra utiliser les sous que Madame Tout-le-Monde n'utilise pas, sauf que l'entreprise ne pourra pas rembourser Madame tout de suite, puisqu'il faudra attendre que le projet aboutisse pour récupérer l'argent qu'on y a investi. Et le rôle de la banque, justement, est de se débrouiller pour prêter l'argent de Madame à l'entreprise, en s'assurant que si Madame réclame ses sous, elle puisse la rembourser, entre guillemets, souvent en utilisant les sous d'une autre madame ou d'un monsieur qui épargne et à qui on donnera le retour sur investissement de l'entreprise quand lui en aura besoin.
Alors justement, les entreprises de crowdfunding ne permettent pas ça, puisqu'on ne reçoit pas son argent avant la fin du projet financé.
Oui, exactement. Et de l'autre côté, des entreprises comme Lydia stockent de l'argent qui « dorme », entre guillemets, puisque c'est un argent qui ne peut pas être investi, car il doit rester disponible pour les utilisateurs. Et la plupart des commentateurs économiques sont d'accord aujourd'hui pour dire que les entreprises de fintech sont face à cette limite et doivent finalement diversifier leur activité si elles veulent se développer davantage. Il faudrait qu'elles suivent un modèle assez similaire à celui des grandes entreprises du web, les GAFA, ce qu'on appelle les GAFA, qui ont peu à peu diversifié leurs services. On se rappelle que Google au départ n'est qu'un simple moteur de recherche et aujourd'hui quelque chose de bien plus gros. Pour se développer, les entreprises de fintech sont amenées à suivre le même chemin, mais du coup, elles vont ressembler de plus en plus aux banques, justement, avec peut-être simplement la technologie en plus.
C'est déjà un peu le cas avec les entreprises de banque en ligne, par exemple.
Oui, et aussi, on a donc ces nouvelles entreprises de banque en ligne, et d'un autre côté, les banques traditionnelles ne restent pas statiques non plus. Elles s'adaptent, elles aussi, à la pression technologique. Et dans ce contexte, il n'est pas sûr que les fintech aient un avantage compétitif très important sur les banques. C'est en tout cas la conclusion d'une étude publiée dans la revue European Economics. Sa conclusion est que le secteur bancaire ne sera probablement pas révolutionné par la fintech, parce que même si les innovations de technologies financières apportent des transformations, elles sont à la marge et elles concernent surtout la forme. Le cœur de travail des banques, qui est l'intermédiation, nécessite donc de mettre en lien différents services qui nécessitent toujours plus de concentration. C'est pourquoi, en fait, pour se développer, les fintechs sont face à deux choix. Ou bien elles s'intègrent aux banques déjà existantes par des opérations de FUSAC, fusion-acquisition, ou bien elles doivent devenir des banques elles-mêmes.
Merci beaucoup Robin, 20h31 sur Transistor. Et juste avant de passer à la culture, on se quitte avec une dernière actu. Oui, je vais vous parler du maire de Challans en Vendée aujourd'hui. Un homme qui, il y a quelques siècles encore, aurait sans doute été jugé pour hérésie et conduit sur le bûcher. Un homme qui, seul et nu dans sa frêle carcasse mortelle avec son ruban tricolore pour toute armure, se dresse contre les forces déchaînées du ciel tout-puissant. C'est le 14 février, date où pourtant les hommes sont encouragés à se préoccuper plus encore que de coutume de leur basse besogne terrestre, que fut consommé l'hubris criminel qui s'était saisi du pauvre homme. 14 février, où fut pris par le maire un arrêté, je cite, « portant obligation d'ensoleillement toute la journée du lundi au dimanche et de pluie trois nuits par semaine ». L'épouvante me saisit à la seule lecture du premier article qui pousse l'inconséquence et le lèse-majesté jusqu'à des extrémités encore insondées. Je cite encore article 1, le soleil est dans l'obligation de se présenter tous les matins du lundi au dimanche dans la ville de Challans. Faut-il chercher plus loin ? La raison de la soudaine animosité des éléments ces derniers jours, lorsque, prenant au mot les injonctions sacrilèges de l'édile vendéen, ils ont précipité le retour du soleil, mais l'ont accompagné de la terrible congélation qui sévit sur nos terres, nous tremblote les membres, chair de poule notre cuir et nous humidifie le groin, transformant brutalement les campagnes de France en un palais de glace où règne seul le soleil goguenard et vengeur, suspendu dans ce trône que nous avons cru atteindre et d'où il ne daigne plus nous envoyer le feu de notre survie. Assurément, non. D'ailleurs, n'avions-nous pas besoin, en ces temps troublés où l'homme plonge chaque jour plus profond dans les nombres fuligineux dont il prétend harnacher la nature, de cet aveu d'impuissance de la République face au climat et de la loi des hommes face à la loi du ciel ? À l'heure où les règlements, les normes, les modèles et autres idoles de papier de la modernité prosternée régissent et encadrent sans broncher la longueur des queues de casserole et la largeur des autobus, la température des toasts et la recette du pot-au-feu, que sais-je, à l'heure où une intelligence artificielle en Californie connaît le grain de beauté que j'ai sur la fesse gauche et mon amour de la peinture anglaise du 19e siècle et peut en déduire la taille de la Grande Muraille de Chine, à l'heure où l'on tronçonne des blés, éviscère, tractopelle, bétonne la moindre parcelle d'humus pour y faire décoller des avions et planter du plutonium ou y gorger nos caddies et nos gosses de plastique et de sucre synthétique, nous en sommes toujours réduits à agiter du papier et des écharpes tricolores pour implorer le climat qui se rit de nous et nous rappelle que la Terre nous survivra. Et après tout, c'est sans doute mieux.
Jusqu'à 21h, le journal radiophonique amplifié de Transistor.
20h34 sur Transistor, on passe tout de suite à la culture. Bonsoir Sarah, bonsoir Léa et bonsoir Myriam qui les rejoint.
Bonsoir Rémi.
Les Céline, les Zola, les Saint-Ex et les Zola, les Pascal et les Goya, dont on ne se lasse pas, la culture est une valeur.
Léa, c'est toi qui commences, tu nous parles de Lyon ?
Oui, alors qu'est-ce qui se passe en ce moment à Lyon ? De la danse, surtout, avec Maggie Marin sur tous les plans. Maggie Marin, c'est cette chorégraphe qui, dès 80, avec sa création Maybe, a fait un pied de nez au mouvement lisse et gracieux pour aller titiller une toute autre corde. En s'inspirant de Beckett, elle génère des corps grotesques, miséreux et en pleine déformation. Les corps sont couverts de boue et quelque chose d'apocalyptique en émane. La pièce est un scandale et un grand succès. En quelques années, elle devient un immense classique. Dans ses œuvres suivantes qu'elle produit à Créteil, l'artiste interroge les relations humaines, des pièces qui laissent place au silence et à la gêne juste le temps que le non-dit éclose. Les corps parlent et la danse se fait parfois théâtre. Jamais le geste n'est gratuit car il est, chaque fois, le signe d'une pensée en mouvement, pour paraphraser une thèse récemment écrite sur elle.
Et c'est une artiste qu'on remarque aussi pour son engagement politique, n'est-ce pas ?
Oui, Maggie Marin, c'est aussi cette artiste qui lève la voix, souvent, pour dire que la création exige du temps, des pauses, et n'est pas forcément bankable. À la marge de la Maison de la Danse, qu'elle n'hésite pas à attaquer, en 2014, elle fonde son propre centre de danse, Ramdam, à Sainte-Foy-les-Lyons. C'est dans ce laboratoire poétique et politique que sont mises sur pied les récentes créations.
Ok, et qu'est-ce qui se joue en ce moment ?
Jusqu'à hier soir se jouait sa dernière création, 2017, dont on attend avec impatience les prochaines représentations. Aussi, prenez vos places pour voir le désormais classique Maybe qui sera joué dans un mois. Et en attendant dans quelques jours, Ramdam nous propose non pas de la danse, mais du théâtre, en invitant la metteur en scène, Chantal Morel, qui nous propose avec sa dernière création d'entrer au pensionnat de Tübingen en compagnie des jeunes Schelling, Hegel et Oderlin. On attend avec une grande curiosité de voir en chair et sur scène exploser, dialectiquement ou non, les divergences de leur point de vue. Enfin bref, on aura sûrement cette année encore beaucoup d'occasions d'entendre parler de Ramdam et de Maggie Marin. Si ce teasing vous fait trembler d'impatience, commencez à déguster avec le micro de l'émission À Voix Nue sur France Culture. Ce micro donc qu'il offre à la Madone de la danse, je ne résiste d'ailleurs pas à la tentation d'y faire goûter vos oreilles. Non. Alors là, on n'attendait pas la virgule, mais la voix de Maggie Marin, qu'on n'a pas en régie. Eh bien qu'on n'a pas, mais c'est dommage, mais filez écouter ces 5 épisodes qui sont sur le site de France Culture. On reste en terre poétique maintenant, parce qu'on a invité Myriam pour nous parler d'une revue qui vient de voir le jour à Lyon, L'Écharde. Alors j'aurais une première question à te poser, Myriam, pourquoi ce nom ?
Des chardes.
Alors, les chardes, pour le dire de manière un peu triviale, c'est cette petite épine, ce petit fragment du monde extérieur qui vient vous perturber dans vos activités routinières, bouleverser vos petites habitudes culturelles. C'est un fragment qui, comme cette petite revue de poésie, reviendrait périodiquement énerver la chair pour la réveiller. En fait, vous verrez bien dans cette revue que les formes et thèmes attendus en poésie sont renouvelés pour reconstruire votre vision de la poésie. L'apport pictural semble être l'une des spécificités de cette revue poétique. Ainsi, vous lirez des poèmes dessins qui vous emmèneront un peu plus loin que le calligramme, avec un humour dédramatisant la noirceur de la vie quotidienne. Par exemple, vous pourrez découvrir l'œuvre d'Élise Tual. Dans l'un de ses poèmes, Le Bain, figurant entre autres une baignoire, on peut lire « Le bain est cassé, marmonne comme un vieillard qui mâche du tabac parfumé à la mangue ». Vous pourrez lire des poèmes d'éminents poètes et poétesses, dans la première écharde, par exemple, Cécile Guivarch. Il y a aussi des tableaux à la publication inédite, tels que l'arracheur d'êtres de la jeune peintre Lily Zaza, qui est une réinterprétation contemporaine du tableau L'arracheur de dents de Théodore Rombaud.
Merci pour avoir dit brièvement en quoi consistait cette revue. Est-ce que tu peux maintenant nous donner quelques détails sur les coulisses de la création ? C'est qui en est à l'origine ?
Donc cette revue est fondée par deux poètes, Louis Pécou, ancien étudiant en lettres et philosophie, qui a notamment publié dans la revue Les Hommes sans épaules, et Alexandre Goutard, étudiant en lettres modernes, qui a par exemple fait paraître ses poèmes dans la revue Conséquences. Toutefois, ses fondateurs tiennent à rappeler que cette revue s'est créée autour d'un noyau d'amitié, au désir originel le plus humain, celui de s'exprimer, certes, mais avec une exigence et un univers à la fois commun et singulier. Et donc, loin de l'idéalisation poétique, la revue ne craint pas d'assumer une certaine négativité et contrebalance la noirceur du monde par l'expression poétique, comme dans cet extrait du poème Philoctère de Nicolas Jean, que vous retrouverez dans la première écharde. « Je devais rompre avec ma vie ce qu'elle avait de plus obscur comme de plus lumineux, pour ressusciter l'enfant que l'ennemi étouffa en moi, lui prendre la main, l'emmener, là, au bord des falaises de l'âge, et me pencher vers lui pour lui dire « Voici ta demeure, un lit de cailloux, mais tout le ciel est à toi. »
On comprend donc toute cette nécessité d'écrire, s'exprimer à travers la poésie. Si on veut découvrir les poèmes de cette revue poétique lyonnaise, où est-ce qu'on peut se rendre ?
Alors sur internet, je vous invite non seulement à consulter leur page Facebook Revue Les Chardes, mais aussi leur page Ulule afin de les soutenir dans la construction de leur projet ambitieux, et ce simplement en précommandant la revue au plus vite, étant donné qu'il reste moins d'une semaine pour récolter les fonds nécessaires à l'impression. Nous joindrons d'ailleurs les liens, et sur Transistor, vous aurez l'occasion, courant mars, d'en entendre un peu plus parler dans l'écume des pages.
Merci beaucoup Myriam, vous trouverez aussi le lien sur le site de l'émission sur Transistor.
Merci à vous.
Et du côté de la création plastique alors ?
Ben alors, du...
Et alors ?
By the way, du côté des arts plastiques, je vous avoue qu'à Lyon, on attend. On attend impatiemment les semaines prochaines où le Musée d'art contemporain de Lyon et l'Institut d'art contemporain de Villeurbanne rouvriront leurs portes pour de nouvelles aventures ou de nouvelles expositions. Plus d'infos donc dans les prochains numéros. En attendant, on desserte un peu Lyon et son petit bulletin plus mince que jamais.
C'est qu'il y a quelque chose qui t'attire ailleurs ?
Eh oui, l'écho des sirènes parisiennes arrive jusqu'à nous et nous fait part d'une exposition étrangement confidentielle au vu de la célébrité internationale de l'artiste. Je parle d'Anselm Kiefer. Alors on se souvient de l'impressionnante rétrospective à Beaubourg. C'est là que je l'avais découvert et j'avais été très émue par cette faculté d'unir en un seul geste, ensemble, des fragments d'êtres microscopiques avec l'immensité des grands mythes ou de l'énorme cosmos, et ça sans avoir besoin de grandir l'une ou de rétrécir l'autre. Parce qu'il arrive à établir de véritables connexions tout à fait originales. Je me souviens de ces grandes toiles dans lesquelles il évoque cette Allemagne nazie qui a bercé ses parents, et où la lourdeur de ce passé est vraiment là, dans une peinture si épaisse qu'elle est presque une sculpture. Et ceci jouxte l'évocation de tout le fond mythique dont se nourrit cette idéologie, avec des évocations de l'épée de Siegfried ou d'autres mythes germaniques. Et puis partout, cette grande forêt qui semble être un peu la matrice. Donc on a vraiment cette idée d'un passé qui hante et qui revient comme un mantra. Et en même temps, ce qui est adossé, c'est toujours l'idée que ce passé est incertain, tremblotant, toujours modifié par le prisme selon lequel on le regarde. C'est un peu comme un bout de formule magique dont on pourrait changer l'effet en inversant quelques lettres ou en le complétant différemment. Je me souviens particulièrement de ces vitrines qu'on aura pu ensuite retrouver au musée Rodin. Vitrines dans lesquelles il fait tenir de très très fines plantes séchées et où il fait le rencontrer, comme un alchimiste, des métaux fondus, des poudres, et où les choses semblent à la fois préhistoriques et en même temps dans un équilibre très précaire.
Et est-ce qu'on retrouve ces procédés dans sa nouvelle exposition ?
Oui, on retrouve l'idée de la sédimentation, à même la toile, on retrouve l'idée de l'alchimie des métaux, mais un peu différemment. C'est peut-être même un nouveau cycle qui s'ouvre pour Anselm Kiefer avec cette exposition de la Galerie Pantin. Cette fois, sur ses toiles peintes, il fait couler du plomb. Ce dernier déforme, puis sèche, forme une croûte et alourdit les toiles presque d'une demi-tonne. Il forme alors des cratères brillants, des comètes écrasées derrière lesquelles on distingue encore, tout déformé, des paysages. Le travail de Kiefer semble prendre, un tournant davantage abstrait et en même temps encore plus expressif. C'est comme si cette idée d'un passé au présent, cette idée d'une possible renaissance, d'une transformation à travers des processus poétiques et alchimiques, finalement, c'était tout entière ramenée dans un seul geste. Dans un, et là je cite l'artiste lui-même cité par les communiqués de presse, un tableau éteint toujours le suivant, c'est un mouvement constant d'abolition de soi et de renaissance.
Et cette exposition, elle est dédiée à quelqu'un, n'est-ce pas ?
Oui, et ce quelqu'un en donne même le titre, pour Andrea Emo. C'est un philosophe italien sur lequel, je l'avoue, et j'en suis désolée Sarah, il est difficile d'avoir des informations, en tout cas en français ou en anglais. Mais en tout cas, ce qui pourrait nous intéresser ici, c'est que les idées de mémoire et de cycle semblent pour lui aussi prédominantes. Ses aphorismes sont, semble-t-il, principalement composés de souvenirs, et l'auteur l'explique lui-même ainsi. Il n'y a pas de nouveauté, hormis dans le souvenir. Le nouveau naît à partir de nous, qui sommes le futur, si nous pouvons renoncer à celui-ci. On comprend donc comment Kiefer a pu s'y reconnaître. Dans ces traces laissées par le plomb, on a donc plus que jamais la marque d'une sorte d'artiste phénix qui continue de renaître de ses cendres mille fois à chaque seconde dans le scintillement d'un matériau éclaté sur une toile.
Et tu nous rappelles où c'est, jusque quand ?
C'est dans le magnifique hangar de la Galerie Thaddeus Ropac, à Pantin, sur le RERE, jusqu'au 31 mai. Alors Sarah, tu nous avais parlé de la représentation de Macbeth avant les vacances, tu nous avais promis un retour, alors qu'est-ce que ça donne ?
Oui, le retour du vol de cuillère. Eva, ne me regarde pas comme une sturbe de morue, ne savais-tu pas qu'avant de voler les grands loulous, on se spécialisait dans le couvert ? Quoi de plus touchant qu'une cuillère triturant votre tasse dépareillée, remuant des poussières de thé, les souvenirs d'une terrasse de café, des marches non d'église, mais d'un théâtre nommé Odéon.
Et à part une volée de marches où tu as pu voler une cuillère, qu'est-ce que tu as vu à l'Odéon ?
Correctif, je ne suis pas l'auteur, alas, de ce méfait. Je l'ai exigé, on m'a obéi, mouahaha. Mais je vous ai vu, je vous avais prévenu, une peau noire couverte de sang. Macbeth, ce vaillant guerrier devenu tyran boucher. Son château lui-même est réduit à la cuisine, carrelé de blanc et décoré de couteaux de boucher. Un abattoir où se déroule l'histoire. Les sorcières, elles, apparaissent sur ces mêmes carreaux et pourtant, nous voilà plongés dans une autre dimension, au carrefour entre l'horreur et le comique. Certains ou certaines, dis-je avec un petit clin d'œil appuyé en direction d'Eva, trouveraient grotesques ces sorcières à la tripaille gonflée, accouchant à moitié engrossées, accroupies telles des grenouilles déguenillées sur des seaux. Vous devinez, seaux bien étranges mixtures qui causèrent à Macbeth les rêves les plus fous et les désillusions les plus amères.
Un sacré décor, l'inquiétude en perspective alors.
Mais pas seulement, et c'est ce que j'ai trouvé de génial dans cette représentation dirigée par Stéphane Braunschweig, je le rappelle. De lointains souvenirs, dont de cuillères mais de cours d'anglais me revenaient tandis que Macbeth trop puissant subissait d'autres revenants. Il paraît que c'est le côté génial de Shakespeare, d'entremêler horreur et rire si bien qu'aucun spectateur ne s'ennuie, très bien rendu ici. On allait du frisson glacé à la belle secouade Thor de Glin, en passant éventuellement par les frétillances érotiques. Et je pense à la scène fort peu frigide qui se déroule près du frigidaire, à même la table. Et aucun spectateur ne s'ennuie, même les handicapés, parce que les sourds ne m'entendent pas, mais la scénographie est spectaculaire. On est dans du théâtre, et pas n'importe lequel. Les aveugles, quant à eux, ils peuvent s'attendre à des dialogues aussi mémorables que Tarantino, comme le disent les pochettes sur ces ces films. Et les paralysés, tout le monde partagera votre sort, puisqu'on est pétrifié dans son fauteuil. Et que nous reste-t-il ? Les muets. Écoutez, cela tombe bien, vous serez priés de vous taire une fois le rideau ouvert.
Que d'enthousiasme. Un dernier mot peut-être pour nous inciter à y aller. La représentation se passe jusqu'au 10 mars à l'Odéon, à Paris.
Ok, le monsieur de la billetterie est très gentil, il fait bon, les fauteuils sont confortables, je plaisante comme d'habitude. Et d'après le metteur en scène, surtout, c'est le mot qui compte. Il faut savoir que, je cite, « le bien et le mal sont relatifs, l'humain et l'inhumain ne font qu'un, et nous sommes des funambules sur une ligne de crête qui s'appelle la vie ». C'est une citation qui a vraiment du sens. lorsque l'on a la pièce en tête. Et les comédiens sont terribles. Ils incarnent vraiment des personnages d'encre et de papier sur scène. Donc, même à la fin, la tête de Macbeth, par exemple, vous surprend encore et vous glace et vous fascine, phrase à double sens, puisque le personnage transpire de la pièce jusqu'à la fin, vous hante autant qu'il est hanté. Mais il y a aussi une référence, surprise, du metteur en scène, que j'aime bien. Certaines âmes plus sensibles ont sursauté. Disons que cela justifierait le jeu de mots d'une décollation en rouge et noir.
Est-ce qu'on... Oui ?
Allez, encore une dernière actu pour ce journal de la culture.
Je ne sais plus si on a le temps ou pas. Alors, avant qu'on ait toutes ces chansons dans la tête et que tu fasses un scandale comme Stendhal, Sarah, je crois que tu avais quand même un petit message à nous faire passer.
Mais oui, je tiens à signaler que ce soir, la fameuse Lucille de Paris joue les réalisateurs pleins de mauvaise foi et les comédiens ratés sur la scène du Louvre en compagnie d'une troupe de théâtre fort charmante, fort rigolote et fort touchante. Et là, du coup, c'est malheureux, mais je ne peux pas expliciter davantage. Mais sachez que c'est vraiment génial et que je l'encourage à distance, Lucille. Voilà, je t'encourage à distance avec ta troupe de théâtre. Et j'en profite pour mentionner que bientôt, il y a un projet en Cantor Chute.
Et c'est sur ces encouragements que nous vous remercions, Léa et Sarah, pour ce journal de la culture et que nous passons immédiatement au sport avec toi, François-René. Bonsoir. Bonsoir.
Et rebonsoir, Rémi.
Un entraîneur, ça doit être entraînant.
Oui, mais là, ça pique.
Respectez ! Pas faire de faute ! Pas faire de faute !
Alors ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Foot, vous êtes un salaud.
C'est vrai que l'année dernière, non, Roland Garros. L'année dernière, on n'avait pas d'opium, je te rappelle.
C'est... Quel scandale cet arbitrage, ça ressemble.
Rebonsoir donc, et nous partons pour un petit peu de tennis. Apparemment, il se passe des choses du côté de la Coupe Davis.
Oui, tout à fait. La compétition de tennis par équipe qui emprunte son nom à son créateur, Dwight Davis, survivra bien à la réforme préparée par la Fédération internationale, l'ITF, mais le format de la course aux saladiers d'argent risque de subir de sacrés modifs, et ce dès 2019. Une petite révolution qui, à peine annoncée, divise déjà le circuit. En lieu et place des rencontres délocalisées chez l'une des deux équipes, l'ITF propose une épreuve d'une semaine, mettant aux prises 18 nations au même endroit chaque mois de novembre. Les équipes composées de 4 joueurs s'affronteraient lors de 3 matchs, 2 simples et 1 double, au meilleur des 3 manches. Donc fini le suspense insoutenable d'un 5e set du 5e match décisif. Alors un tas de joueurs et entraîneurs ont pleuré via Twitter et via les interviews l'exécution brutale de cette vieille ancêtre qu'est la Coupe Davis. Ils ont vendu l'âme d'une épreuve historique à regretter, Yannick Noah. C'est une peine de mort pour la Coupe Davis, a réagi Luc Capouille. D'autres ont dit que ce n'était pas un enterrement, mais plutôt une thérapie par électrochoc. Le fait est que la vieille n'est pas en grande forme, et à part en France, où c'est chaque année un psychodrame, et où on convoque la mémoire des soldats de l'an 2 pour réveiller l'ardeur patriotique de nos fiers fantassins à raquettes, elle fait de moins en moins recette. Il faut la réveiller, les meilleurs joueurs n'y participent plus, que ce soit Federer, Nadal ou Djokovic. Tous ont passé la main, ils s'en foutent. N'en déplaise au coq français, si on a gagné la dernière fois, c'est que la concurrence n'était pas dingue. Le changement, c'est maintenant, et c'est sans doute une bonne chose.
Merci beaucoup, François-René. Donc tu risques de t'attirer les foudres de toute la sphère du tennis.
Là, de Yannick Noah, qui écoute certainement cette chronique.
Oui, eh bien Yannick, si tu nous écoutes, on te fait des poutous et on passe immédiatement aux sciences, parce qu'après tout, il n'y a pas de raison de passer du coq d'YouTube, je raconte n'importe quoi, c'est pas grave, nous sommes à la bourre, il est 20h50 sur Transistor, vous écoutez l'amplifié. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Rémi.
Voilà, faut revenir aux fondamentaux au bout d'un moment, et nous commençons donc avec ton édito scientifique.
Et oui, et ce soir, je vais vous expliquer comment fonctionne un panneau solaire.
Bunker, where the Norwegians have stored heritage.
Pour revenir aux origines du massif hercynien, il faut faire un bond de
90% of blue and red light is absorbed in the upper one-fifth of a spinach leaf.
Le paramètre qui va caractériser l'ordre du système va être discontinu à la fin.
Commençons par un petit peu d'histoire. Il faut savoir que le premier panneau solaire repose sur l'effet photovoltaïque, qui permet la production d'électricité par un métal quand celui-ci est exposé à de la lumière. Cet effet a été découvert par le physicien français Becquerel en 1839. Einstein proposera une explication de cet effet en 1905, dans un article qui d'ailleurs lui vaudra le prix Nobel de physique au passage. C'est en 1916 que Millikan réussit à faire fonctionner la première cellule photovoltaïque de l'histoire. Cette technologie paraît très prometteuse, mais pendant des décennies, elle est délaissée à cause des faibles rendements des premières cellules. C'est durant la course à l'espace entre Américains et Soviétiques dans les années 1970 que cette technologie est reprise et améliorée. Suite à l'envolée des prix du pétrole, elle s'est évidemment répandue et paraît aujourd'hui être une des sources d'énergie renouvelable les plus développées.
Et du coup, comment marche une cellule photovoltaïque ?
Le principe de fonctionnement d'une cellule est assez simple. On excite les électrons d'un métal grâce à la lumière du soleil jusqu'à ce qu'ils soient arrachés et libres de se déplacer. On les force alors à emprunter un circuit extérieur et on récupère un courant électrique. En réalité, c'est très difficile d'arracher des électrons à un atome au repos. On réalise alors un dopage des matériaux utilisés. On leur rajoute ou on leur enlève artificiellement des électrons. Les atomes qui se retrouvent excédentaires en électrons sont alors beaucoup moins stables et en donnent plus volontiers, tandis que les atomes déficitaires veulent bien sûr en récupérer. Et le génie des laboratoires Bell, premier constructeur des panneaux solaires, est de séparer ces deux types d'atomes par une couche isolante. C'est comme cela que sont fabriqués les panneaux photovoltaïques modernes.
Et du coup, est-ce que les problèmes de faible rendement ont été résolus ?
En partie. On estime aujourd'hui que le rendement énergétique d'une cellule photovoltaïque optimisée est d'environ 15%, ce qui est très faible par rapport à d'autres méthodes de production d'énergie, comme la combustion de matières fossiles, mais qui reste amplement supérieur au premier rendement, qui était de l'ordre du pourcent. Cependant, la production d'électricité par effet photovoltaïque reste très difficile, car un seul panneau solaire en produit assez peu. On a alors construit des immenses tours solaires qui sont des tours de centaines de mètres de hauteur, en haut desquels on place un miroir qui réfléchit la lumière du soleil sur des milliers de panneaux solaires placés au pied de la tour. Ces installations sont très chères à mettre en place et à entretenir, mais les plus grosses peuvent produire autant d'électricité qu'une centrale nucléaire. Un autre aspect limitant de cette technologie reste évidemment l'ensoleillement.
De manière assez évidente, par les temps qui courent.
Pas de lumière, pas d'électricité. Seul un petit nombre de pays ensoleillés de manière constante peuvent donc utiliser l'énergie solaire à profit.
Et alors s'il y a autant de contraintes, pourquoi finalement ce type d'énergie est-il intéressant ?
L'énergie solaire est très intéressante car c'est une énergie inépuisable. De plus, de récentes recherches dans le domaine des matériaux semi-conducteurs pourraient permettre d'ici à 2025 de créer des panneaux solaires avec un rendement avoisinant les 30%. Et ce ne sont pas les financements qui manquent. Devant l'importance du marché potentiel, les plus grosses entreprises s'arrachent déjà ces découvertes à prix d'or pour que l'homme puisse enfin maîtriser la puissance du soleil et l'utiliser à son avantage.
Merci beaucoup pour cette conclusion qui nous ouvre un avenir radieux, Pierre. Et avant de se quitter, on passe à un petit flash d'actualité de la radio. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés pour Onde Courte.
Onde courte.
C'est aujourd'hui 1er mars que Mathieu Gallet quittait officiellement et définitivement ses fonctions de président-directeur général de Radio France. L'occasion de revenir rapidement, pour ceux qui n'avaient pas tout suivi, sur un audiovisuel public un petit peu perturbé ces temps-ci. Rappelons ce qui se passe avec Mathieu Gallet tout d'abord. Il a été condamné dans une affaire de favoritisme à l'époque où il dirigeait l'INA. Et à la suite de quoi, il a été démis par le CSA de ses fonctions de PDG de Radio France. En attendant, il a fait appel concernant le jugement sur l'INA. Mais c'est donc aujourd'hui qu'il quittait ses fonctions. Son mandat fait pour le moins débat, c'est moins qu'on puisse dire. On se souvient qu'il était sorti victorieux dès son arrivée de la plus importante grève qu'ait connue Radio France dans son histoire, que ses méthodes de gestion ont longtemps été décriées par les syndicats, et que les restructurations importantes qu'il a fait subir à l'entreprise publique, avec entre autres sa désormais fameuse stratégie du média global, n'ont pas forcément fait que des heureux. Il a néanmoins été salué par les employés lors de son départ et les syndicats de Radio France semblaient même s'en plaindre. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils se sentent un petit peu seuls désormais, sans personne pour représenter Radio France dans les négociations qui vont conduire à la réforme de l'audiovisuel public. Cette réforme, annoncée il y a quelques semaines maintenant, alors on s'y attendait, hein, c'est une réforme qui était attendue depuis un moment et qui promet d'être drastique. On se souvient de la phrase d'Emmanuel Macron à l'automne, qui avait qualifié l'audiovisuel public de honte de la République avant de se rattraper un peu maladroitement. Et quelques pistes de travail, un document en tout cas, a fuité à la fin de l'année dernière et livre quelques pistes donc pour ces restructurations qui font un petit peu froid dans le dos un certain nombre de monde. On parle, comme on s'y attendait, d'une possible fusion entre France 3 et France Bleu et le maillage territorial des deux chaînes. Le ministère s'en défend actuellement, mais malgré tout, le scénario reste très probable d'un fort rapprochement entre les deux chaînes avec la mutualisation de nombreux moyens et sans doute au moins une matinale commune. Par ailleurs, ces pistes de travail donc proposent la suppression définitive de France O, la chaîne dédiée au territoire d'outre-mer, et puis la fin de la diffusion hertzienne du MOOV et de France 4 qui serait cantonnée à un rôle purement numérique. Enfin, la vraie question concerne le statut des entreprises publiques de l'audiovisuel public, pardon. Radio France bien sûr, mais aussi France Télévisions, l'INA, France Média Monde et je dois en oublier au passage. Que vont devenir ces entreprises ? Vont-elles toutes réellement fusionner ? Françoise Nyssen, la ministre, assure qu'il n'y aura pas création d'une grosse holding regroupant toutes ces entreprises publiques. Malgré tout, le mot qui revient le plus souvent lorsqu'on parle de cette réforme reste ORTF, dans un petit retour aux années 60 qui ne nous met pas forcément en joie. Enfin, la réforme concernerait sans doute aussi la question de la redevance, ce qui me permet de glisser quelques mots sur un vote assez crucial qui va avoir lieu en Suisse ce week-end, le 4 mars. Les Suisses votent sur une initiative populaire pour la suppression pure et simple de la redevance, ce qui serait un réel cataclysme en Suisse. Il faut savoir que cette redevance finance la SSR, donc la télé publique, mais aussi 34 radios et télé locales sur le territoire. Ce financement est primordial parce que dans un pays où il y a quatre langues officielles, les chaînes en langue française, italienne et romanche ne pourraient pas survivre sans ce financement par la redevance, en souffriraient en tout cas énormément. Et pour prendre le cas de la langue romanche, de loin la plus minoritaire, la redevance parvient à financer 2 heures de télé hebdomadaire et une radio qui disparaîtrait inévitablement avec la redevance. Le sondage donne à 65% le non à la suppression. Les inquiétudes sont donc limitées, mais tout ça en dit malgré tout long sur la prégnance des idées libérales, y compris dans l'audiovisuel public, ce qui n'est pas une nouveauté, mais plus que jamais, la vigilance est de mise. Enfin, on termine avec le podcast de la semaine que vous pourrez écouter après ces 3 heures de direct si vous avez encore envie d'écouter la radio et qui n'aurait pas envie d'écouter la radio après notre prestation. Ce podcast, c'est Mon Prince Viendra, une fiction de Claire Fégr sur Arte Radio. Claire qui cherche l'amour, l'homme de sa vie et le numéro de la pizzeria, un peu comme tout le monde ici à Transistor. Alors, à l'instar des plus célèbres anciens présidents de notre radio, elle écume les sites de rencontres et dissèque les profils méticuleusement. Et le résultat ne détonnerait pas dans une conversation surprise quelque part en cafette.
Léon, 35 ans, hashtag lunettes, hashtag David Lynch, hashtag ping-pong.
Ping-pong, ça fait vraiment... J'ai pas fait de sport depuis 97, mais j'ai touché une raquette une fois à un barbecue en Mayenne.
Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi.
Du coup, ça me plaît.
Description, photo sur demande.
Ça, j'aime bien parce que moi, pareil, ça me gonfle de mettre ma photo. De toute façon, ce qui me plaît chez un mec, c'est qu'il me fasse marrer.
Voilà, alors c'est un mec qui rentre toujours bourré.
Comme on est obligé de mettre une photo, il a mis une photo de Trotsky. Ok, je mets un point pour la créativité.
Voilà, la création entière est à écouter sur le site d'Arte Radio et puis vous pourrez la retrouver en lien sur notre propre site, ce qui met fin à cet amplifié. Et à 21h passées de 48 secondes, je remercie Maë Burla, François-René Julliard, Marie Lécuyer, Robin Lenoir, Sarah Andria, Léa Jusso, Myriam Mellouli et Pierre Dedieu pour leur participation à cet amplifié. Le journal radiophonique amplifié, c'est une émission coordonnée par Rémi Cerda avec aujourd'hui Félix Barancy et Marie Lécuyer en régie. On se retrouve d'ici 15 jours pour un nouvel amplifié et des épreuves d'agrég. D'ici là... Eh bien, bonne semaine à toutes et à tous sur Transistor et à la prochaine fois.